marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Année funeste.
Nous avons regretté que dans la nuit du 11 mars, alors que les armées allemandes envahissaient l'Autriche, les Français n'aient pas réalisé dans un grand élan de fierté nationale l'union sacrée et ne se soient pas réconciliés pour le salut de la patrie, non pas autour d'un parti ou d'une coalition de partis, mais au-dessus des partis, autour d'un programme n'ayant qu'un seul objet, faire face aux dangers qui menacent la patrie et la paix. Parce qu'à l'heure du péril, il n'y a ni majorité ni minorité, il y a la France.
Champetier de Ribes, parlementaire, démocrate, chrétien. À mesure qu'avance l'année 38, le rapport de force en Europe va devenir de plus en plus défavorable aux démocraties. Mars, l'Autriche, on vient de l'entendre, est occupée par l'Allemagne et va être annexée. Avril, les franquistes, en atteignant la Méditerranée, coupent la Catalogne de Valence républicaine. Mai, l'Allemagne cerne la Tchécoslovaquie au prétexte de la protection des Sudètes. L'été, une première mobilisation générale a lieu en France, mais le 30 septembre, Daladier et le Britannique Chamberlain signent avec Hitler et Mussolini les accords de Munich qui vont démanteler la Tchécoslovaquie. Et le 9 novembre, Hitler se sentira assez protégé pour lancer la nuit de cristal. Était-il possible d'arrêter cette expansion par les armes, mais encore à moindre frais ? Le débat se prolongera à l'infini, d'autant que ceux qui à l'époque s'étaient résignés ont souvent changé d'avis ensuite au vu des conséquences qu'ils n'avaient pas alors imaginées. L'habitude s'est cependant installée d'accuser la démocratie parlementaire. La multiplication des controverses inutiles et le respect maniaque des règles auraient paralysé la France. Mais le gouvernement Daladier avait obtenu les pleins pouvoirs en juin et gouvernait de plus en plus par décret-loi. Michael Fossel pose la question crûment dans un livre « Jusqu'à quel point la France de 1938 était-elle encore démocratique ?» Plus crûment encore, il ajoute « La mobilisation morale, une formule qui s'impose cette année-là, n'était-elle pas dirigée contre l'esprit démocratique autant ou davantage que contre les fascismes ?»
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Michael Fossel, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
N'hésitez pas à dire que vous êtes philosophe.
Je n'hésite pas à le dire, j'hésite d'autant moins à le dire qu'effectivement vous me recevez, vous avez la gentillesse de me recevoir dans une émission d'histoire. Ce livre parle d'histoire, mais il n'en parle pas en historien. C'est-à-dire que je me suis penché sur un passé funeste, vous l'avez dit, mais depuis des inquiétudes du présent, et en particulier sans faire le travail d'archives, mais en me mettant, en essayant plus ou moins fictivement, de me mettre dans la tête d'un lecteur de la presse de cette année-là.
Voire dans l'état d'esprit du président du Conseil, on aura l'occasion de le dire. Il peut y avoir des anachronismes féconds. C'est quand même un anachronisme stérile, en revanche, de dire que 40 était contenu dans 38.
Souvent, on dit que 40 est contenu dans 38, ou on le dit d'ailleurs plus souvent à propos de 36, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre la défaite ou la débâcle à partir des politiques qui ont été menées en France sous le Front populaire. Moi, si j'ai mené procédé à un anachronisme, c'est un anachronisme, j'aggrave mon cas du point de vue de l'historien, qui consiste en réalité à investir, à enquêter, si j'ose dire, sur cette année 38 depuis les préoccupations d'aujourd'hui et en faisant comme si je ne connaissais pas à la fin de l'histoire. Évidemment, je la connais, mais il y a toujours un caractère fictif dans ce type de démarche, pour voir, ou pour poser, ou pour tenter un diagnostic sur la démocratie française en 1938 et m'apercevant qu'il ne correspondait pas à ceux que l'on présente d'habitude.
Et vous avez vu les choses depuis l'année 2018, que vous avez passé en grande partie à consulter, grâce aux nouveaux moyens informatiques et sans vous salir les doigts, la presse de l'époque. Ah, la presse de l'époque que célèbre dans un banquet riche en aliments et en éloquence le président de la République d'alors, dont vous reconnaîtrez la voix inimitable de vieux comédien démodé qui met les intonations là où il ne le faut pas. J'ai nommé Lebrun.
Dans les temps difficiles où nous vivons, ou à la suite de temps et de si rudes événements que tout le monde a dû supporter, se révèle dans notre esprit public une espèce de sensibilité excessive. Quel but magnifique, messieurs, c'est pour la presse, si elle veut bien se dire qu'elle doit concourir au relèvement de notre pays. Inspiratrice de l'esprit public. Et la loisir de le jeter dans la confusion, dans le désordre, ou aussi bien de lui être un guide sûr, un tuteur utile.
Ce sont les patrons de presse qui applaudissent Albert Lebrun. Alors la presse que vous avez consultée est de toute nature. Il y a des journaux d'opinion, comme l'Action française, la Petite Époque, il y a des hebdos. Marianne, vous aimez assez l'élégance de Marianne. Premier numéro de Marianne de 1938.
Marianne, le premier numéro, c'est un hebdomadaire qui, comme son nom l'indique, est de nature républicaine. Et quand on est républicain dans un sens véritable du terme, c'est-à-dire attaché aux règles de droit, on est inquiet en 1938. Et Marianne fait un article en janvier, le premier numéro de l'année, qui imagine ce que sera la France cette année-là. Et comme c'est un journal que j'aime beaucoup, je l'ai suivi de manière un peu chronologique, en tout cas très assidue. Et le diagnostic, ou plutôt d'ailleurs le pronostic que fait Marianne en janvier 38 sur la France qui vient, s'avérera particulièrement vrai, puisqu'ils annoncent que probablement, alors c'est sur un mode un peu ironique, probablement la guerre sera évitée encore cette année-là, mais la France n'échappera pas, je le cite de mémoire, à une dérive autoritaire.
Vous avez évidemment consulté les journaux à grand tirage, Paris Soir, le Petit Parisien. Et à l'extrême droite, tirage important mais bien moindre, hebdomadaire, Je suis partout, dont vous avez vu, parce que il faut qu'on se situe là, clairement en 38, deux ans après le début du Front populaire, l'aggravation du ton, la radicalisation du ton depuis le début du Front populaire.
Oui, Je suis partout part d'assez loin, hein, mais c'est un journal qui est fondé en 1930 et qui, dans les premières années, j'ai regardé ça rapidement, m'intéressant plutôt à 38, les premières années reste un journal, je dirais, dans les, hélas d'ailleurs, les habitudes de l'antisémitisme, en particulier de la presse d'extrême droite de l'époque. Il se radicalise dès 1936 par réaction au Front populaire, et en particulier par réaction à l'avènement, j'allais dire sur le trône, au poste de président du conseil d'un juif, Léon Blum. Et c'est en 1938 que la nouvelle garde entre au journal, avec Brasillac à sa tête, et que pour la première fois, il y en aura d'autres, mais pour la première fois, le journal consacre un dossier entier à ce qu'ils appellent, eux déjà, la question juive.
Alors le juif Léon Blum, je parle comme je suis partout, qui avait démissionné après la première longue expérience du pouvoir qu'il avait faite dès 1936, revient le 13 mars au moment de l'annexion de l'Autriche qu'évoquait tout à l'heure Champetier de Ribes, et il rêve d'un gouvernement d'union nationale qui irait depuis Maurice Thorez, le Parti communiste, jusqu'à la droite. Mais il y a une polarisation en France autour des deux grands pays autoritaires, totalitaires, l'Union soviétique et l'Allemagne, que déplore Henri de Kérilis. Henri de Kérilis, vous l'avez découvert, le cher Kérilis.
Je l'ai découvert et je peux dire aimé. Pourtant, rien n'était garanti dans ce domaine, car c'est véritablement un réactionnaire, on peut le dire. Mais il est député de Neuilly, mais c'est un homme qui est patriote avant d'être nationaliste. C'est-à-dire qu'il ne se soucie pas de savoir si la France est républicaine ou monarchiste. Il préférerait sans doute qu'elle soit monarchiste, mais il voit qu'elle est encerclée par des pays hostiles, dictatoriaux, mais hostiles à son avenir. Et cela l'amène à créer un journal en rompant avec ses anciens amis qui, eux, ne cessent de voir dans le régime fasciste italien, d'ailleurs, plus qu'en Allemagne, un régime en tout point désirable.
Alors, quand vous lisez l'époque, le petit journal batailleur de Kérilis, c'est comme un oasis dans le désert, et ça vous fait le même effet que la lecture de Georges Bernanos.
La haine du bolchevisme provoque dans la bourgeoisie française la haine de la Russie. De même, le goût et le besoin de l'autorité drainent vers les deux grandes nations autoritaires, et notamment vers l'Allemagne, les sympathies d'innombrables Français. L'antagonisme de deux grandes mystiques sociales tend à reléguer au second plan l'antagonisme franco-allemand. Ainsi, par haine du bolchevisme, une partie de la bourgeoisie française est tombée rapidement dans une stupéfiante indulgence à l'égard de l'Allemagne hitlérienne. Et certains hommes vont plus loin encore, et se demandent si Hitler, après tout, ne sera pas le sauveur de la civilisation. Ils s'imaginent qu'ayant volé au secours de Franco, il volerait au secours des bourgeois français menacés. C'est à peine croyable, mais c'est ainsi. J'ai sous les yeux, en écrivant ces lignes, un dossier volumineux d'articles de journaux, d'extraits de discours, de lettres, qui traduisent cet état d'esprit effarant.
C'est un député de droite indépendant qui dit ça. À droite, quand Blum se voit refuser sa perspective d'union nationale, on dit « cabinet de compétences ». Je ne savais pas qu'il y avait eu une pétition de 165 membres de l'Institut en avril 38 sur ce thème. Ou bien « mobilisation morale ». Au Figaro, Vladimir Dormesson, qu'on a appelé plus tard Vladimir d'Endormesson.
Oui, en effet, il y a une offensive généralisée pour empêcher Blum non seulement de reconstituer un cabinet de Front Populaire en 38 avec le Parti Radical, mais même, vous l'avez dit, un cabinet d'Union Nationale qui irait des communistes à la droite. Les communistes sont d'accord, d'ailleurs, chose étonnante. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, et c'est là où l'année 1938 m'est apparue sous un angle un peu différent du savoir scolaire, que j'en avais, elle est évidemment marquée ou dominée par le risque de guerre, donc par les relations internationales, mais il y a aussi, il y a d'abord, je dirais, des questions de politique intérieure, et en particulier, Kérilis l'a d'ailleurs suggéré, la hantise d'un retour direct ou indirect de Blum au pouvoir, donc d'une politique sociale de Front Populaire. Et à cet égard, les pleins pouvoirs sont refusés à Blum, alors que son programme, il faut le rappeler, en 38, est un programme, je dirais, de nature New Deal, plutôt porté sur l'investissement public que sur de nouvelles mesures sociales.
Nous sommes maintenant au mois d'avril, les choses commencent à aller très vite. Blum a recueilli l'assentiment de la Chambre des députés pour son programme que vous venez d'évoquer et la demande de plein pouvoir. Les radicaux à la Chambre ont voté pour, les radicaux qui font partie de la coalition de Front Populaire, mais les radicaux au Sénat, c'est un parti toujours à parti double, hein. Le parti radical et radical socialiste ont refusé les pleins pouvoirs et Blum démissionne. C'est vous les progrès de la radio à cette époque, on commence à être mobile et on a inventé déjà le système qui consiste à porter son micro devant les portes de l'Assemblée. Et voici le chef du groupe parlementaire socialiste qui va s'exprimer.
La réunion du groupe parlementaire socialiste vient de se terminer. Voici Monsieur Charles Lucy, député du Vaucluse, secrétaire du groupe parlementaire socialiste SFIO, qui veut bien venir devant notre micro.
Le groupe socialiste a été mis au courant par M. Vincent Auriol, en l'absence de Léon Blum, des conversations qui ont eu lieu ce matin au domicile de Léon Blum entre celui-ci et M. Édouard Daladier. Le groupe est dès à présent saisi, bien entendu, d'une demande de participation. On trouvera naturel qu'avant de se prononcer, il ait des précisions sur la politique que suivra le gouvernement de demain.
Le gouvernement de demain, ça va être un gouvernement Daladier. Alors voici qu'apparaît ce nom, c'est un ancien président du Conseil, on se souvient de février 1934, c'est lui qui a été pressenti par le président de la République, Lebrun, et c'est un leader radical. Alors vous, vous jouez la surprise, vous êtes l'innocent devant les journaux que vous lisez de 1938. Vous vous demandez d'ailleurs, comme le leader socialiste, les socialistes ont refusé finalement la participation, ce qu'il va faire Daladier.
Oui, parce qu'effectivement, j'ai essayé de suivre les choses, pas jour au jour le jour, mais presque, et l'ignorance que manifeste la SFIO à ce moment-là se retrouve dans toute la presse, parce qu'au fond, on ne sait pas très bien ce que veut faire Daladier, peut-être ne le sait-il pas lui-même, et par conséquent, l'abstention initiale des socialistes va se transformer, c'est ce qui est assez fascinant dans cette année-là, progressivement en inquiétude, et puis à la fin de l'année, on y arrivera tout à l'heure, à la fin de l'année, en exaspération et même en c'est incroyable, c'est le titre que je retrouve très régulièrement dans le Populaire, qui est l'organe du Parti Socialiste.
Oui, mais là, avril-mai...
Avril-mai, on ne sait pas, parce que il y a des pourparlers à ce moment-là encore entre Daladier et la SFIO pour éventuellement que la SFIO, mais sans les communistes, entre au gouvernement. Mais il y a une offensive des partis de droite et de la presse très dominante, conservatrice, allant jusqu'au temps, exigeant qu'en réalité, devant la gabegie ou après la gabegie du Front Populaire, en termes sociaux et démocratiques, il est temps que le Parti Radical retrouve sa vieille tendance, je dirais, dirais, conservatrice et s'allie avec la droite.
La gabegie, ça consiste à accueillir des étrangers en dépit du bon sens. Et le 2 mai, premier acte significatif de Daladier, des décrets-lois portent sur l'accueil des étrangers. Nous sommes au moment où affluent des juifs chassés par l'Anschluss de l'Autriche. Et peu de temps après, en juin 1938, ça prend peu de place dans la presse, se tient une conférence internationale à Évian sur le thème des réfugiés, où il apparaît que la plupart des grandes puissances démocratiques veulent restreindre l'accès à leur pays, ce qui... sont les plus accommodants, sont les petites républiques d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, le Paraguay, la République dominicaine. Vous êtes membre du comité de rédaction d'Esprit. Un numéro d'Esprit a été publié peu après sur la question des étrangers et des réfugiés. Et ce numéro recueille un certain nombre d'observations qui sont faites dans les services administratifs.
Une jeune Israélite d'Autriche, 18 ans, entre en France avec un visa de transit pour aller au Paraguay rejoindre son père docteur. Le visa de transit expire avant qu'elle ait pu organiser son voyage. Elle obtient un sursis de 15 jours, à l'issue duquel elle est arrêtée. Elle est arrêtée le 5 décembre, alors qu'elle était en mesure de s'embarquer le 7 décembre. Elle passe à la 10e chambre correctionnelle, elle est condamnée à 6 mois de prison. Le SSAE intervient et aurait pu obtenir sa levée d'écrou pour la mettre en route le 23 décembre. Mais le Paraguay, ayant pris la décision le 15 décembre de fermer ses frontières aux Juifs, Mademoiselle X purge encore actuellement sa peine à la prison de Fresnes. Source du service social d'aide aux migrants.
L'immigration, preuve de la gabegie démocratique.
Oui, en tout cas, il y a cette tendance à considérer que de même que l'État français n'a plus, la France n'a plus les moyens de sa politique sociale, elle n'a plus les moyens de son accueil ou de sa générosité républicaine. Et par conséquent, le 2 mai sont promulgués les premiers décrets-lois, mais il y en aura tout au long de l'année, qui visent à rendre la vie des réfugiés, parce que des étrangers en général, mais des réfugiés juifs en particulier, il faut rappeler qu'à cette époque, étrangers, c'est pour l'essentiel, ce sont pour l'essentiel des Juifs venant d'un Reich de plus en plus étendu, hein, suite à l'Anschluss puis aux accords de Munich. Et ces décrets, alors on pourrait évidemment en faire la liste exhaustive, ce serait très long, mais enfin consistent en particulier d'ailleurs, pour les plus graves d'entre eux, à faciliter les conditions de la dénationalisation et à regrouper des étrangers qui sont apatrides, hein, il faut le noter, qui sont apatrides, les regrouper dans de ce qu'on peut déjà appeler, enfin ce qui s'appelle d'ailleurs déjà des camps d'internement. Donc il y a de plus en plus ici, pas seulement en France, hein, c'est vrai de l'Angleterre et des États-Unis, mais surtout de la France, tentation au fond à essayer de, en compensation en quelque sorte aux mesures sociales qui seront prises et qu'on évoquera, d'offrir, si j'ose dire, à l'opinion publique qu'on suppose chauffée à blanc sur les questions migratoires, alors offrir en compensation des mesures de plus en plus répressives à l'égard des étrangers.
C'est des mesures qui peuvent être utilisées aussi, c'est une justification du gouvernement contre les espions allemands. La prison de Clairvaux va accueillir des dizaines d'espions allemands en 1939, bien réel. La preuve en sera donnée par leur activité quand ils auront été libérés en 1940. Le 18 juin 1938, Daladier demande et obtient les pleins pouvoirs. Et la SFIO s'abstient, les communistes sont pratiquement les seuls à voter contre. Et l'été 38, Hitler ayant cerné la Tchécoslovaquie, c'est la mobilisation générale pendant un moment. Vous savez, il y a un dessin dans la presse de Saint-Augan où on voit sur une plage une famille et la dame demande « Où est-ce que t'as mis ton carnet de mobilisation entre l'huile solaire et ma serviette, chérie ?» Les accords de Munich qui vont suivre, septembre, sont jugés comment par les Français? Vous avez été un peu étonné de voir un sondage, un des tout premiers, Jean Stotzel, l'IFOP, qui vient d'être créé, qui donne des résultats qu'on n'a plus en mémoire.
Alors, il donne des résultats qui sont surtout un peu moins impressionnants que ceux en faveur de Munich que j'ai pu voir dans la presse ou dans le monde politique, puisque 57%, ce qui est une majorité nette, mais enfin tout de même pas écrasante, des Français sont favorables, 36% ou 37% y sont défavorables, et je crois 6% s'abstiennent. Par conséquent, il y a tout de même, on a souvent l'image, d'ailleurs, quand on a des images, pour ça que j'ai pas voulu voir trop d'images, quand on a l'image de 38, on a l'image d'Edouard Daladier revenant de Munich et acclamé par une foule unanime et maugréant dans sa barbe, qu'il n'avait pas d'ailleurs, à l'écon, hein, comme si, certainement était-il d'ailleurs lui lucide, mais il y a tout de même une proportion importante, plus du tiers de d'après l'IFOP, si je dois croire le premier sondage réalisé en France, de Français qui sont tout de même opposés à cet accord, non pas simplement parce qu'ils veulent la guerre, mais parce qu'ils voient bien que ce n'est qu'une manière de la repousser dans des conditions qui ne faciliteront certainement pas, comme le dira d'ailleurs Kérilis, la victoire.
Michael Chassel, dans votre livre sur 38, Récidive, c'est paru aux Presses universitaires de France. Vous interrogez à plusieurs reprises d'ailleurs sur la sincérité de Daladier. Il n'était pas antisémite, et puis les décrets-lois sur les étrangers ont pu être très défavorables à des réfugiés juifs. Il était lucide, mais il était acclamé à son retour du Bourget, après Munich, ou bien, un petit peu plus tard, morceau de bravoure sonore, parce que les archives sonores et les archives visuelles, ça de l'intérêt, monsieur Fossel. À Marseille, quand s'ouvre le congrès du parti radical auquel appartient Daladier, alors les militants lui sont extrêmement favorables, crient Daladier, Daladier sans cesse, et un opposant radical de gauche, dirait-on, Albert Bayet, grand militant des droits de l'homme, a bien du mal à se faire entendre.
Je sais que je vais choquer certains d'entre vous. Eh bien, ils réfléchiront qu'eux, ils m'ont choqué aussi et que je les ai écoutés sans les interrompre. Beaucoup d'entre vous se réjouissent de la rupture du Front populaire. Et en vérité, je n'avais pas besoin de ce oui pour le savoir. Eh bien, moi, je déplore profondément la rupture du Front populaire. Si nous pouvons, et si vous me permettez de parler sérieusement pendant quelque temps, il y a une chose dont vous, radicaux, patriotes, vous devriez être profondément heureux. Il n'y a pas si longtemps que dans ce pays, les communistes criait grosse en l'air, et quelquefois même la France n'existe pas. À la place de grosse en l'air, ils ont répondu à l'ordre de mobilisation comme tous les Français.
La Marseillaise est entonnée, on crie à Moscou en direction de Bayet. Le congrès du parti radical à Marseille va être interrompu par un incendie tragique sur la Canebière.
Une effroyable catastrophe, le plus tragique sinistre qui ait endeuillé notre pays. Le feu s'est déclaré dans un échafaudage intérieur des nouvelles galeries sur la Canebière. Activé par un violent mistral, il a détruit entièrement ses magasins et ravagé tous les immeubles environnants, le grand hôtel L'Astoria et l'hôtel de Noailles, où le président Daladier et plusieurs délégués du Congrès radical socialiste étaient logés. Le président Daladier vient sur les lieux du crime.
Dans une interview à Libération, Jean-Claude Gaudin évoquait longuement cet incendie des nouvelles galeries qui résonnait dans son expérience personnelle. Les grands hôtels de la Canebière sont rendus inaccessibles aux congressistes et aux journalistes. J'ai oublié de dire qu'il y avait peut-être 70, 80 ou 90 morts. Il y avait aussi beaucoup de pillards. Et les responsables politiques ou les responsables de la presse voient impuissants les pillards qui cambriolent au vu et au su de tous. Peut-être certains d'entre eux appartiennent-ils aux bandes d'extrême droite conduites par Sabiani, Spirito, Carbone, et qui tiennent en fait Marseille C'est pas le maire qui va être démis, qui tient Marseille.
Oui, il y a une campagne de presse à ce moment-là contre le maire, qui s'appelle Henri Tasseau, qui est d'ailleurs un maire SFIO, ce qui est sans doute la raison pour laquelle la campagne de presse est menée et finira d'ailleurs par l'emporter. Il sera démis de ses fonctions. Ce qui est important, je crois, à la fois les deux archives qu'on vient d'entendre, que je ne connaissais pas et qui effectivement sont très instructives, c'est que devant l'incendie, parce que tout à ce moment-là devient affaire de politique intérieure, hein, et tout est au fond mis au service quand même d'une forme de radicalisation de la République vers un virage autoritaire, et Daladier, devant l'incendie et devant l'inaction apparente du moins des forces de l'ordre, dit « qui commande ici ?» avec un point d'exclamation, et cette réaction qui est tout à fait humaine sera reprise sous forme de mot d'ordre, y compris dans une presse qui est censée être très hostile à Daladier, qui lui est d'une manière générale hostile, la presse d'extrême droite, c'est-à-dire un immense désir de commandement, un immense désir d'autorité à l'intérieur de la France et de la République finissante, bien qu'elle ne sache pas encore qu'elle est condamnée.
Vous avez parlé de deux décrets-lois concernant les étrangers. Il y en a 32 qui sont pris à la fin de l'année. Certains concernent encore et toujours les étrangers. Ils serviront d'ailleurs au régime de Vichy. D'autres, plus nombreux, sont destinés à lutter contre l'inflation et à remettre la France au travail. Moi, j'ai toujours entendu ça de la part de mes parents. Il était temps de remettre la France au travail. Il fallait que les ouvriers reviennent dans les usines de métallurgie pour fabriquer les armements, et c'en était fini du week-end ouvrier.
C'en était fini de la semaine des deux dimanches, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire du fait que le samedi soit chômé, ce qui était un acquis du Front Populaire. Et en effet, il faut remettre la France au travail. C'est une formule, là aussi, de Daladier, mais qui remportera un immense succès, qu'on entend à des périodes récurrentes de l'histoire française, et en particulier remettre en cause, assouplir, c'est le terme qui est utilisé, mais c'est un assouplissement qui équivaut à une abrogation, la loi sur les 40 heures qui avait été décidée sous Blum, de telle sorte que le travail devienne l'alpha et l'oméga, je dirais, du redressement national, mais à une période où le chômage augmente, tant et si bien d'ailleurs qu'il y a une tentative de la CGT pour organiser en réaction une grève générale, et que Léon Jouot, qui est le secrétaire général de la CGT, a cette question un peu naïve, mais qu'on entend aussi, ou qu'on peut comprendre aujourd'hui, comment se fait-il qu'il faille augmenter la durée légale du travail, ou ne pas faire la retraite des vieux, autre serpent de mer qui traverse cette année-là, alors qu'il y a autant de chômeurs en France.
La retraite des vieux, ben, on va la contourner, on va l'imiter.
Elle est promise dès 1936, Blum la repromet en 38 lorsqu'il demande les pleins pouvoirs qu'il n'aura pas, et ensuite elle se perdra dans les sables mouvants, je dirais, du redressement national.
On a parlé de votre cher Kérylis, Berdanos aussi vous est cher, qui, assistant à une manifestation de retraités demandant le minimum, a vu son voisin, son ami, dire... devant les retraités, c'est salaud.
Oui, il y a cette formule qui m'a fait penser à plus tard à salaud de pauvre, c'est-à-dire que Bernanos revient, il faut le rappeler, de Majorque, où il a vu les troupes franquistes, si j'ose dire, en action. Il a, de ce point de vue-là, changé son orientation politique, on peut le dire, et puis il revient à Paris, et il constate que ses amis nationaux, c'est comme ça qu'ils s'appellent, loin de s'inquiéter de l'arrivée d'une troisième dictature à la frontière de la France, en Espagne, en réalité ne s'inquiètent que des revendications ouvrières, ou en l'occurrence, ici, celle des retraités, au fond, sont pris dans une logique de la revanche à l'égard du Front Populaire. Et Bernanos est à ce point ulcéré, je dirais, de la situation française, ou inquiet pour elle, que, alors qu'il aura supporté tout de même un an et demi la guerre d'Espagne, il repartira en 38, enfin, il quittera la France, il partira en exil au Brésil, armé de la conviction que c'est ce qu'il écrit d'ailleurs après avoir entendu son ami dire salaud à des épaves qui était là en train de revendiquer un peu de justice sociale. Il écrit « Ô mon pays » comme dans un sanglot, et effectivement, d'avoir traversé 38 me fait ou me rend solidaire de ce sanglot-là.
Analogie, assonance. Si on était une émission sérieuse, je veux dire une émission de philosophie, on vous laisserait, Michael Fossel, développer les parallèles entre ces mots, lequel correspond le mieux au travail que vous avez fait. Analogie peut-être ?
Analogie, si l'on veut éviter justement des ressemblances ou surtout l'idée d'un retour, analogie, cela veut dire non pas que les événements se répètent, mais que le système d'interprétation qui commande leur compréhension, lui, se ressemble. Et comprendre tout dans le sens, disons, d'une remise au travail ou d'une demande d'ordre me paraît assez significatif de ce qui se passe aujourd'hui.
Michael Fossel, Opus 38, Récidive.